Oh, c'est l'inflation, vous avez compris. La Banque Centrale Européenne, avec encore pour quelques semaines, Monsieur Jean-Claude Trichet à sa tête, est là pour combattre, tel Saint-Georges face au dragon, avec son épée. Monsieur Trichet est là pour notre bien à tous. Surtout une petite minorité d'entre nous qui sont plutôt les rentiers que les routiers. Le point de vue sur ces questions, celle de l'inflation, le point de vue de Jean-Pierre Chevènement.
Alors de 1983 jusque, on pourrait dire jusqu'à 2011 aujourd'hui, on est passé du franc fort à l'euro fort, mais ça a toujours été la monnaie forte.
Disons que le choix de la monnaie forte est un choix qui correspond aux intérêts de classe de nos élites, des détenteurs d'actifs financiers, ne correspond pas aux intérêts du monde du travail, de la jeunesse, qui naturellement se voit opposer à un certain taux de chômage réputé être indispensable à la lutte contre l'inflation. C'est ce qu'on appelle le NERU, Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. C'est une théorie qui a été décidée au niveau de la Banque Centrale Européenne, mais qui fait qu'il y a un chômage structurel en Europe de 9%. On a décidé d'avoir du chômage pour ne pas avoir d'inflation. Et M. Trichet vous dira, mais c'est la mission de la Banque Centrale Européenne. Donc j'accomplis la mission qui m'a été fixée, puisque le soutien à la croissance et à l'emploi ne figure pas dans les missions de la Banque Centrale. Je fais ce qu'on me dit. Je lutte contre l'inflation et pour le reste, eh bien, après moi, le déluge.
Vous disiez que ça correspondait aux intérêts de classe des élites, mais pas aux intérêts de classe du monde du travail. Comment ça se fait alors que la gauche a accepté de passer du franc fort à l'euro fort?
Alors j'ai deux explications. D'une part, il y avait le contexte international, la victoire de Thatcher et de Reagan dans les pays anglo-saxons, 1979-1980, de Kohl en Allemagne, en 1982, et puis il y avait au sein même du gouvernement des gens qui, au fond, n'avaient jamais vraiment avalé la ligne d'Épinay, qui avaient toujours ça en travers de la gorge et qui ont saisi les circonstances les plus favorables pour se défaire, en quelque sorte, du carcan d'une ligne politique qui n'allait pas dans le sens de ce qu'ils croyaient.
Donc un double rapport de force, un rapport de force à l'international et un rapport de force au sein du gouvernement, au sein de la gauche.
C'était des idéologues d'un certain européisme dont on voit aujourd'hui les conséquences.
Alors là, vous écrivez, le Parti Socialiste se coula peu à peu dans un rôle de turiféraire de l'orthodoxie libérale et monétariste. Et finalement, ce rôle d'applaudir à l'orthodoxie monétaire et libérale, c'est un rôle dont il ne s'est pas départi jusqu'à aujourd'hui.
Oui, moi j'ai tout à fait désapprouvé ce virage qui a été décoré par le premier secrétaire du Parti Socialiste de l'époque, Lionel Jospin, d'une épithète « ouverture de la parenthèse libérale ». Mais j'observe que la parenthèse ne s'est jamais fermée. Donc j'ai combattu cette orientation. Je pense qu'il y avait pour la France un autre choix qui était celui d'une économie mixte avec des entreprises publiques qui joueraient un rôle directeur. Je pense que si la France avait continué à fonctionner sur son modèle qui était celui des grands projets tracteurs, comme elle l'avait fait, je dirais, depuis la libération, ça aurait donné in fine de bien meilleurs résultats que la dérégulation généralisée, l'abandon finalement au mouvement d'un capitalisme erratique qui ressemble de plus en plus au monstre de Frankenstein qui se retourne aujourd'hui contre ses créateurs.
Pendant toutes ces années de folie collective et d'autodestruction,
le président.
Je pense avoir vu tout ce qu'un homme peut voir.
Un film d'Henri Verneuil.
Des populations jetées sur les routes, des enfants jetés dans la guerre.
1961.
Des vainqueurs et des vaincus finalement réconciliés dans des cimetières, que leur importance a élevé au rang de curiosité touristique. La paix revenue, j'ai visité les mines. J'ai vu la richesse de certaines contrées et l'incroyable pauvreté de certaines autres. Et bien, durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à l'Europe. Monsieur Chalamont, lui, a passé une partie de sa vie dans une banque, à y penser aussi. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.
Nous penserons d'abord à la France.
Mais vous n'avez pas le monopole de l'Europe, nous y pensons aussi.
Tout le monde parle de l'Europe. mais c'est sur la manière de faire cette Europe